L'actu ciné sur Africa Radio.
L'actu ciné comme tous les mercredis. Alors, je m'en vais vous présenter quelqu'un. Imaginez un petit garçon né en 1949 à Abengourou, hein, une petite ville de Côte d'Ivoire, fils d'un notable et petit-fils d'un des plus grands maîtres religieux. Ce petit garçon étudie dès son plus jeune âge et partage son temps entre l'école coranique et l'école laïque. Mais à 6 ans, il vit sa première expérience cinématographique pour la première fois de sa vie. Il voit un film projeté sur le mur de l'église de son quartier natal. Et aussitôt, impressionné par les images en noir et blanc qui défilent sous ses yeux, particulièrement par le visage d'une femme blanche à la voix singulière, 20 ans plus tard, après avoir appris son métier de comédien entre Abidjan et Paris, il est sur scène et donne la réplique à cette même femme qu'il avait vue sur ce mur d'église enfant et qui n'est autre que la mythique comédienne Jeanne Moreau. Son nom est Sidiki Bakaba. C'est l'un des plus grands acteurs africains que nous avons ce matin sur Africa Radio. Bonjour grand frère et bienvenue.
Bonjour Dogo, n'est pas des petits frères.
Alors, que dire après ma présentation? Que dire?
Rien, que sinon merci et que ça continue, que vous faites ce qu'il faut faire. Il faut un peu de mémoire, il faut des repères à nos enfants, à nos petits-enfants, pour aller plus loin, ne pas toujours avoir le sentiment que on est le premier. À chaque fois que quelqu'un fait un film dans tel style, tu dis je suis le premier, mais parce qu'ils n'ont pas de repère, il faut justement des gens comme vous pour rappeler que un chemin c'est toujours très long.
Alors en parlant de mémoire tout à l'heure, j'ai saisi quelque chose que vous avez dit en rentrant dans cette radio. Ça vous a fait penser à quelqu'un que nous avons perdu durant la période de confinement, durant le coronavirus. C'est quelqu'un qui appartenait à toute l'Afrique et notamment Africa Radio. C'est le doyen Manu Dibango.
Oui, à qui je rends un grand hommage. Il disait dans ce même studio un jour comment il m'a rencontré.
Ouais. Racontez-nous justement.
Et oui. Et qu'il disait oui, mais quand je t'ai vu pendu avec les dents dans un cirque, enfin dans un chapiteau pendant le gala de l'Union des Artistes, je me dis mais attends, c'est pas possible, qu'est-ce qui lui arrive? Et il est acteur et il fait maintenant du trapèze. Et surtout se pendre avec les dents à 20 mètres du sol sans filet. Alors il me le rappelait ici. Est-ce que ce que j'ai gardé vraiment fort de lui, outre le fait que ce soit un très grand musicien, mais la musique de film, c'est quelque chose de particulier. Mmh. Il a fait la musique de Kedo que quand j'écoute, ça n'a... on pense à Ennio Morricone, parce que ce ne peut pas être possible d'imaginer un tel travail qu'il a fait avec les sons, avec les calebasses renversées dans l'eau.
Exact.
Mais c'est extraordinaire. Et puis bon, moi j'ai eu aussi le bonheur d'être co-réalisateur du roman mythique de Cheikh Hamidou Kane, L'Aventure Ambiguë. Mm-hmm. Et de jouer le rôle principal et d'être co-réalisateur et m'occuper de casting tout ce qui est artistique africainement parlant. Mmh. Ben, j'ai pu demander à Manu de venir nous faire la musique de L'Aventure Ambiguë. Et c'est du coup, ça rend un film qui est un film justement à partir de mémoire qui a rassemblé, je crois, c'est le seul film africain qui a pu rassembler les plus grands acteurs de l'époque. Mmh. Trois générations. Douta Seck, Bachir Touré, Robert Liensol, Biti Moreau, et bon, ma génération, et puis l'enfant qui joue mon enfance. C'est un très très grand film. Je crois qu'en cela, c'est un film, le roman est connu, le roman est au programme des baccalauréats, et même en France souvent. Et c'est être mis à l'écran. Je crois que ce film est à voir à cause des grands acteurs. Mmh. On connaît leur voix, parce que c'est des gens qui ont fait beaucoup de post-production, mais ils n'ont pas eu de post-synchrone plutôt, mais ils n'ont pas eu la chance d'être vus.
Ouais.
On connaît Bachir Touré de nom, mais de voix, mais ce film rassemble comme un document important à faire voir, et je crois que ça va être le temps de le remontrer maintenant.
Alors Sidiki Bakaba, avant de venir à l'actualité, hein, à ce film de Daïcha Ouattara dont on va parler dans quelques instants, pensez-vous avoir véritablement la reconnaissance, je veux parler de votre génération, hein, d'acteurs, de cinéastes, est-ce que vous pensez avoir cette véritable reconnaissance aujourd'hui du travail que vous avez abattu depuis toutes ces années?
Oui, je crois. Oui, je crois. J'aime souvent dire que tout ce que j'ai demandé au bon Dieu, il me l'a donné, et même plus.
C'est très bien.
Ce que je n'avais demandé.
Ouais.
Et pourquoi? Parce que il y a une chose qui est importante pour moi, c'est la transmission. Mm-hmm. J'ai très tôt commencé à donner des cours. Très, très tôt, hein. J'avais à peine 21 ans, je finissais mes études en France à l'université de théâtre, je rentrais, j'ai toujours fait. Et pendant les 10 ans de 2000 à 2010, j'ai ouvert une école de formation d'acteurs au Palais de la Culture, pas joué le directeur, voilà, le DG, comme dit tout le monde, DG.
Ouais.
Moi, j'étais toujours ou en combinaison.
Mais vous étiez le responsable de ce palais de la culture.
Comment?
Vous étiez responsable de ce palais.
Ah oui, je suis le premier directeur.
Le premier directeur.
J'ai donné vraiment une âme, en venant. Je dis, bon, écoute, il y a ça qui manque. Allez, écoute, allons-y. Et il n'y avait rien de prévu pour les enfants. J'ai pensé comment les appâter. J'ai pu obtenir l'avion du premier président Félix Houphouët-Boigny, le tout premier avion, et je l'ai démonté, j'ai remis sur l'espace, j'en ai fait une bibliothèque pour les enfants, et sous l'aile, une scène pour faire des lectures, des spectacles pour enfants, et ça, en même temps, à mon école de formation d'acteurs a permis que les jeunes comédiens puissent régulièrement monter des comptes. Parce que on a beaucoup de richesses dans nos comptes.
Exact.
Et donc les comptes régulièrement. Et puis j'ai pu faire une saison théâtrale. Je peux même dire qu'en 10 ans ce que j'ai fait, je n'aurais pas pu le faire en 30 ans en France. Je n'ai pas arrêté de faire des mises en scène.
Mais vous avez toujours été partagé entre le continent et l'Europe.
Ah oui, parce que la France, c'est aussi mon pays. C'est surtout mon pays aussi.
Ouais.
Parce que quand on a vécu plus de 40 ans dans un endroit, un peu même plus, et qu'on y est marié et qu'on a des enfants des enfants métissés, culturellement aussi surtout, faisant la navette entre l'Afrique et ici, et puis sollicité par les réalisateurs africains qui me font qu'aujourd'hui je peux dire que j'ai plus d'une quarantaine de films comme comédien. C'est pas seulement des films français, mais des films, beaucoup plus de films africains. J'y vais, je viens, je suis presque formateur aussi de mes partenaires, qui souvent n'étaient pas forcément des comédiens, voilà, il faut, sur un terrain de foot, faut savoir qui va bien te passer la passe, la passe pour bien marquer.
La passe décisive pour marquer
donc,
le but.
Il faut justement faire travailler.
Ouais.
Non, j'ai été un homme comblé et la reconnaissance, elle est quoi? Elle est sur les images, elle est quelque part. Mais ma surprise, je me trouve à Los Angeles. Hop, je rencontre un Camerounais. Dis donc, c'est vous qui avez fait Pétanqui? Ou bien c'est vous qui avez fait tel film? Ah, moi, j'ai adoré ce film avec Jean-Paul Belmondo. Si tu veux, c'est comme ça. Et souvent, je suis surpris. Je suis surpris qu'on me reconnaisse.
Mmh.
J'aurais pu être un imam, comme je dis, descendant de Cheikh Fantama de Chérif.
Ouais.
C'est plutôt c'est pas une question d'humilité, mais c'est une question d'éducation qui fait que ceux-là sont des maisons que, enfin, tous se sont des gens plutôt veulent passer inaperçus, peut-être que cela, Mais quand on ne veut pas passer inaperçu, on ne monte pas sur scène. Malheureusement, je suis sur scène et devant les caméras.
Voilà, Sidiki Bakaba, vous restez avec nous. On va marquer une pause et on revient juste après. C'est Actu Cinéma comme tous les mercredis. Ne bougez surtout pas.
Africa. Les matins d'Africa avec Phil Le Montagnard sur Africa Radio.
La suite des matins d'Africa avant de rire avec Phil Darwin tout à l'heure. On poursuit donc notre entretien avec Sidiki Bakaba. Sidiki Bakaba, c'est l'un des plus grands acteurs africains qui est avec nous ce matin. Oui, dans les matins d'Africa, Actu Ciné comme tous les mercredis. Je vous propose d'écouter une bande-annonce hein, de 2017, Pim Pim Che, Toast de vie de Jean Audoutan. On écoute ça et on revient juste après.
Moi, comme je peux ni compter ni sur papa ni sur toi, je vais me batailler pour trouver de quoi payer ma contribution scolaire.
Ah, de ma cabine téléphonique.
Piou, piou, tchao.
Piou, piou, tchao. Nonobstant les situations, ces formules doivent être la base de vos connaissances érotiques.
Hey, pim, pim, tchao.
Il me faut des ronds.
Tu m'as déjà assez taxé comme ça.
Tu planches sur combien de tableaux, dis-moi.
Moi, ma famille et moi.
Pour le Z.
C'est quoi? Écarte-toi,
tu vas voir ton avenir assuré là.
Ah ouais, ça nous fait ton bombo.
Il sort d'où lui? On doit passer par la case du test du HIV.
Laisse-moi te faire le mot une dernière fois.
Je te dis que c'est toi le père de l'enfant que je porte et qu'il me faut de l'argent.
Moi, je te dis que tu vas aller voir le bâtard qui t'a cloqué.
Virtuose de l'arnaque.
Il est beau ton fils, hein? T'as vu comme il te ressemble?
Piou, piou, tchao!
Wabo! Piou, piou, tchao! Wabo! Asina Tandia! Wabo! Ayakon Tandime! Wabo! Les belles de Tiolo! Wabo!
Africa! L'actu ciné sur Africa Radio.
Voilà, Pim Pim Tché, toast de vie de Jean Audoutan. Je veux qu'on en parle. Hein, sur le plateau d'Africa à Radio. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce film sorti en 2017 où, ma foi, c'est assez extraordinaire hein, quand on voit cette histoire. Moi, j'ai regardé les images, j'avoue que j'étais un peu bousculé comme ça. Ça m'a, voilà. Je le dis comme ça, je suis sous l'émotion, en fait. Donc, est-ce qu'on peut en parler hein?
Aïcha.
Oui, on peut en parler, bien sûr. Bah, c'était donc mon premier... film, mon premier long métrage, donc j'avais le rôle principal. Et donc c'était quelque chose d'assez intéressant. Donc je suis partie 2 mois au Bénin à Ouida pour le tourner. Et puis après, qu'est-ce que je peux dire de ça? C'était une très belle expérience, voilà. Et
voilà, on a eu droit à des scènes assez osées quand même.
Bah. En fait, j'ai pas forcément pensé aux scènes osées, justement. C'est pour ça que je fais un peu un parallélisme avec Sidiki. C'est que moi, j'ai surtout vu un personnage qu'il fallait que je construise. Et donc après, forcément, bon, bah, ce personnage, c'est une petite peste, et puis elle se sert de son
corps. Une petite
peste. Parce que Pinche, en fond, ça veut dire ma sale garce. Et elle se sert de son
corps... J'ai pas osé le dire.
Et elle se sert de son corps pour gravir les échelons.
Ouais, donc, gravir les échelons, la société. Est-ce que c'est une lecture que l'on fait de la société africaine, plus ou moins, ou partout dans le monde?
Bah, je sais pas si c'est comme ça dépend des sociétés. C'est vrai que des fois, quand il y a pas.
C'est-à-dire que la gente féminine qui utilise parfois ses atouts hein, pour pouvoir réussir dans la vie. Est-ce que c'est cela que vous avez essayé de retranscrire plus ou moins?
Bah, j'ai pas essayé de retranscrire.
Dans un contexte bien africain.
Oui, non, mais c'était à l'époque en tout cas au Bénin, c'était quelque chose qui était assez récurrent parce qu'à un moment, elle couche avec son oncle. Son propre oncle, qui est aussi son prof de maths.
D'accord.
Et comme elle veut, elle a redoublé sa cinquième, donc à 17 ans, elle est en cinquième, et ben, elle se dit, bon, bah, pour avoir des bonnes notes, et ben, je couche avec mon oncle. Donc c'est un peu bizarre. Et son professeur. Donc ça traduisait une réalité. Ensuite, après, j'avoue que je connais pas tout comment tout se passe dans le monde, mais en tout cas, bon, bah, ça peut arriver. Mais après, c'est vrai que dans des sociétés plus pauvres, et ben, c'est quelque chose qui est peut-être plus récurrent, je dirais. Je sais pas.
Alors, Sidiki Bakaba, quelle lecture on peut faire justement, enfin, de ce contexte-là, parfois où on peut dire que les humains, on va dire, parce qu'il y a des hommes aussi qui utilisent leurs atouts hein, pour réussir dans la société. Et quelle lecture Sidiki Bakaba peut-il faire par rapport à ça?
Ben, c'est la société qui, où elle évolue, où elle est malade. Voilà, c'est-à-dire
que, d'accord. Bon, je dirais plutôt soi-même. Elle est malade.
et moi, c'est vrai, quand on parle de scène érotique, je crois qu'il est tourné dans le film le plus érotique, en fait, premier de l'histoire du cinéma africain, qui s'appelle Visage de femme. Mm-hmm. Où il y a cette scène d'amour que quand le film a été présenté.
Tourné en 72, hein, c'est même.
Oui, par Désiré Carré. Et que quand ça a été présenté aux autorités ivoiriennes, ils ont dit non, ça là, pas en Côte d'Ivoire. Et en fait, quand le film est présenté, ben voilà, on dit non, on ne veut pas de ce film, on ne peut pas. Mais en passant, les VHS X étaient dans les salons de tous ces mecs-là.
Exact.
C'était ça. Oui, j'avais ça. Mais de voir un de leurs fils nu avec une femme nue dans l'eau faisant l'amour, une des plus belles scènes, et que Désiré Carré a fait quoi? Il a pris son film, il l'a mis sous le paillasson, mm-hmm. Il a ouvert, il a élevé des porcs au sens...
propre. Hein.
Ouais, propre. Et puis, il a ouvert un restaurant à Ouagadougou pour les Fespaco. Et un jour, Frédéric Mitterrand le rencontre qui dit, mais attends, un cinéaste aussi génial comme Désiré Carré, bon, il en avait fait deux qui avaient été primés partout. Et tu ne fais plus de cinéma. Il dit, si, j'ai fait un film dans mon pays, là, on dit que c'est pas du cinéma. Alors, peut-être trop en avance. Et Mitterrand, donc Frédéric, a demandé de voir le film. Quand il a vu, il a dit, mais c'est le plus beau film érotique qu'on ait jamais vu. Ah. Et après, Hiroshima, mon amour, je crois que c'est à comparer à Hiroshima, mon amour, mais dans un contexte magnifique. Et le film a eu le prix de la critique internationale à Cannes. Mmh. Après ça, ben, on a crié en Côte d'Ivoire, ça y est, on a un film qui est primé à Cannes, donc c'est bon. Le film est resté,
Il aura
fiche.
Fallu attendre la reconnaissance extérieure pour que le pays puisse saluer le film.
Et assumer quelque part, du coup, finalement. Parce qu'il y a cette hypocrisie, finalement, quelque part qui n'est pas assumé, parce qu'on a Belle Poussière, comme disait Ozir, dans Belle Poussière aussi il y a des scènes osées.
Mmh. Oui, mais en fait la nudité est interprétée différemment. Mmh. Voilà pourquoi je dis on est malade ou quoi, parce que moi j'ai vu mes grandes sœurs, mes tantes, je les ai tous vues torse nu. J'ai grandi là-dedans, je voyais rien du tout de choquant. Mais dès qu'on est en ville, dès que j'ai voulu mettre une comédienne à un moment donné qui a été élevée par des panthères dans la forêt, mm-hmm. et que les chasseurs découvrent, elle ne pouvait être qu'avoir des peaux de panthère, des peaux de bête autour d'elle, mais sa poitrine nue, on dit « Oh, on a crié au scandale !» Bon, si vous voulez, voilà pourquoi je disais où on est malade, où on évolue, où on revient à ce qu'on est, à ce qu'on était avant. Je crois que pour moi, la nudité n'est pas du corps. Quand je joue nu, alors que je suis quelqu'un de très très timide, je peux pas faire pipi dans la rue. Je sais pas où me cacher pour faire un pipi. Mais devant une caméra, ce n'est plus moi. Mmh. Comme ma femme l'a dit d'ailleurs si bien. À mes copains qui l'a taquiné pour dire, mais enfin, quand le film est fait sortir, mais ton mari, écoute, tout le monde... Il dit, non, c'est pas lui. Celui que vous voyez, c'est un personnage.
Exact.
Mais Sidiki est Sidiki. Donc, cette différence, je dis, la nudité, c'est la nudité des sentiments. C'est ça qui est dur. Sortir ta lâcheté, ta peur, ta bonté, et même ça, et ta beauté. Tout ça c'est du courage. Mmh. Lorsque tu dois le sortir, et plus, je sens plus mettre mes sentiments Parfois, on avait envie tout à l'heure de couler les larmes. Ça n'a pas coulé. Parce que quand on a parlé de Manu, tout de suite. Mais je l'ai retenu. Un jour, à la faveur d'un rôle, mes larmes vont couler.
Ouais.
Ben oui.
Tout simplement. Alors, j'aimerais qu'on parle du film d'Aïcha Ouattara. Hein, ce film avec Jean Digne, La culture du or. C'est bien ça. De quoi parle ce film?
Alors, donc, à travers le parcours d'une personne qui s'appelle Jean Digne, je parle de l'évolution des politiques culturelles françaises. Donc voilà, c'est aussi c'est quelqu'un qui a beaucoup œuvré pour la culture, pour la démocratisation de la culture et qu'elle soit ouverte à tout le monde. C'est fait un peu aussi encore écho avec ce qu'a fait Sidiki quand il a fait qu'il a pris l'avion de Oufouedouani pour finalement que montrer la culture aux jeunes.
Faire une bibliothèque.
Voilà, une bibliothèque. Et Jean Digne a fait ce genre de choses, c'est-à-dire qu'il a créé pas mal de choses. C'est même lui qui a créé la halle de la Gombée à Kinshasa. C'est lui qui l'a créé.
Magnifique.
Ensuite, après, il a fait tellement de choses que j'arrive pas à énumérer. Mais c'est vrai que c'était vraiment un grand acteur culturel. Voilà.
Voilà, un grand acteur culturel. Dommage, nous n'avons pas la bande-annonce. On aurait aimé partager cela.
Ah, d'accord, oui, c'est vrai, j'y ai pas pensé.
Nos auditeurs, bien évidemment. J'aimerais avoir le point de vue quand même de Ozir qui est avec nous, qui est resté avec nous. Ozir aussi qui nous a présenté son roman tout à l'heure. Que pensez-vous? Quelle est votre lecture par rapport à cette génération d'acteurs et la génération actuelle? J'ai le sentiment parfois que la nouvelle génération ne cite jamais les dévanciers, de dire que bon, moi j'ai été influencé par Sidiki Bakaba. Cette génération ne cite jamais ceux qui ont marqué l'histoire de notre cinéma finalement.
C'est vrai, c'est quelque chose qu'il va falloir peut-être apprendre.
Comment expliquer ça?
C'est une éducation, c'est un manque d'éducation. Et pourtant, la première chose que...
Même dans la musique, c'est la même chose. C'est-à-dire que, voilà.
Dans la littérature aussi. Ouais. Dans la littérature aussi. En plus, il y a une génération qui tend à rendre plutôt à les comptes, ou plutôt à faire un procès d'intention à la première génération, sachant que c'est une génération qui a fait avec les moyens de bord. Pas de budget, pas de ministère avec une politique bien clairement définie. Ce sont des gens qui étaient la plupart autodidactes et qui ont fait avec leurs moyens de bord, qui ont lancé la culture au sens multidimensionnel du terme. Moi, ce qui m'a impressionné, c'est que la première chose qu'il a commencé à introduire, c'est le fait qu'il œuvre dans la transmission du savoir.
Très bien.
Et pourtant, les jeunes ne rendent pas vraiment hommage à la génération précédente, mais pourtant, lui, il est toujours plutôt impliqué dans la transmission de ce savoir-là. C'est tout à fait magnifique. C'est comme ça que la culture africaine s'est faite et doit continuer de se faire. Ça, c'est plutôt très intéressant. Quand je l'ai vu, c'est vrai que j'ai fait une petite erreur sur son nom. Je l'ai appelé par Amiri Baraka, qui est un grand personnage de la littérature américaine, alors qu'il s'appelle Sidiki.
Sidiki,
et
ouais.
Bakaba, voilà. Et je lui ai raconté l'anecdote. Le premier film que j'ai vu de lui, c'est un film que j'ai vu sur cassette VHS de mon père. J'étais adolescent. Bako Lotrive. Ça m'a marqué. Je pense que je l'ai surpris en cela. Ça doit être un de vos premiers films, non?
Oui, mais le tout premier film est sorti 10 ans après, parce que, comme je vous l'ai dit, mais entre-temps, il y a eu Bako, effectivement, comme premier film, mais je dis, chaque acteur a un film emblématique, il va faire 200 films, on va dire, ah oui, mais à bout de souffle, Belmondo, ou bien La Fureur de Vure, James Dean, eh ben oui, moi on dit toujours Bako, j'ai dit... Mais quand même, ça fait trop longtemps. J'ai fait des films magnifiques après, mais non, ça,
c'est le classique.
Ouais, c'est pour ça que j'ai vu d'autres films de vous, mais j'en ai parlé parce que c'est un film qui a une actualité aujourd'hui.
Ben oui,
c'est le premier film africain qui traite de la dramaturgie de l'immigration sauvage, quelque part.
Et oui.
Et qui va se terminer par la mort de l'individu. Moi, j'étais gamin, ça m'a beaucoup marqué. Non, je ne vais pas en dire trop. Et c'est un patrimoine, ce genre de film, d'autant que l'actualité rattrape l'histoire du film. C'est un film qu'il faut toujours continuer de... Peut-être qu'il faut l'actualiser par les moyens technologiques d'aujourd'hui et le rediffuser.
Vous savez, c'est quand même un film qui a eu le prix Jean Vigo, le prix écuménique, mon premier prix d'interprétation, parce que je jouais en Bambara complètement paumé, alors qu'il n'y avait pas plus parisien que moi à l'époque. D'où le travail... De base de l'acteur, c'est de pouvoir composer réellement des personnages auxquels on croit. Quand ma femme arrivait en Guinée ou partout, les gens allaient la voir à l'hôtel pour dire, mais attendez, votre mari là, il parle français? Comment vous avez pu vous marier avec un type aussi paumé? et c'est ça, en fait. Ce que vous dites est très important. Cette histoire de transmission, c'est qu'on est toujours en train de dire « je suis le premier à faire ça ». On a eu tout, on a eu le western. Il y a eu le western, Mustapha Alassane a fait un western magnifique, les cow-boys étaient noirs au Niger. Il y a eu pratiquement une tentative même de science-fiction. Il y a eu des films d'action, beaucoup au Sénégal, ils ont fait beaucoup de films d'action. Mais dès qu'un jeune réalisateur aujourd'hui se met devant une caméra et dit « je suis le premier à faire un film d'action », ouais. Mais parce qu'ils ne sont pas cultivés.
Cultivés, ouais.
C'est ce refus.
Méconnaissance de l'histoire du cinéma africain.
Exact. Et qui ne connaît pas son passé ne peut pas aller de l'avant.
Tout à fait.
Pas que le cinéma. Hein. Dans le domaine de la littérature.
De la littérature de poésie, aussi. Alors, on va bientôt se quitter. J'aimerais que l'on évoque également votre passage au Palais de la Culture. Hein. Racontez-nous un peu passionnément comment vous avez vécu justement la direction, parce que vous étiez le responsable du Grand Palais de la Culture, qui reste quand même une référence en Afrique, qui reçoit le Gotha artistique et musical lors des grands événements. Qu'est-ce que ça vous a fait justement lorsque vous avez porté ce grand palais?
Il n'était même pas fini entièrement. La construction de la grande salle de 4000 places n'était pas encore. Il n'y avait pas de toit. Et je me suis vu avec une casquette de responsable. On me disait, on va vous confier le palais de la culture, le président Gbagbo. Il m'a vu hésiter, je ne voulais pas trop parce que je n'aime pas faire des choses à moitié. Mmh. Et là... Et oui, il m'a dit, mais je sais que ton souci, c'est de transmettre. Mmh. Parfois, on t'a vu toujours passer dans tous les pays, aller en faire un stage de 21 jours ici, un stage d'un mois ici, par la coopération française. Tu as toujours dit que ton rêve, c'est de trouver un lieu pour former. Eh bien oui, cela m'a motivé que j'accepte. Du coup, je deviens directeur général, un espace de 4 salles et auquel je vais rajouter l'espace polyvalent avec l'avion, mm-hmm. qui n'est pas seulement... J'en ai fait une bibliothèque à l'intérieur et sous l'aile, une scène, théâtre et un écran qui descend, donc cinéma. Il y a plein d'événements qui se passaient là. Du coup, j'avais à gérer l'ensemble du Palais de la Culture, les locations, les 90 personnes. Mmh. Et j'avais,
c'est beaucoup, hein, c'est personnel. Oui.
C'est beaucoup, mais j'avais une femme exceptionnelle qui est Madame Bakaba, qui s'occupait de l'administration. Et moi, tout ce qui est artistique, je me suis libéré. Et j'avais cet homme qui venait... un monument, quel rêve, voilà pourquoi je dis j'ai eu beaucoup de chance dans ma vie. Bernard Dadier, que je croyais que c'était un blanc, la première fois que je viens à Abidjan, les dictées qui nous collaient à tout moment, pour les certificats d'études, pour ceci, c'est quand on dit Bernard Dadier, Lamartine, bon, pour moi c'était un blanc. Et j'arrive à Abidjan pour mes études secondaires, je m'inscris à l'École nationale d'art dramatique et un jour... on va les rencontrer, le directeur général de l'ensemble des arts, beaux-arts, musique, théâtre. Et je vois un noir assis, et devant lui, Bernard Dadier. Voilà, et ce monsieur mythique, qui ensuite va suivre un peu ma carrière quand il a l'UNESCO ici, était tous les jours au Palais de la Culture, toutes les semaines il était là, une fois par semaine, pour venir écouter les gamins. Ah, il était presque centenaire déjà. Et ça m'a appris beaucoup de choses. C'est une chance d'avoir à donner une bonne orientation culturelle, ouvrir la salle à la musique,
oui.
Le Zouglou par exemple, où des gens qui n'avaient pas d'espace où jouer arrivaient. Bon, on va s'arranger. La salle coûte tant, ça va nous coûter tant. C'est pas grave, tu vas donner ce que toi tu peux. On va reprendre sur une star qui va venir, voilà, qui va venir donner le paquet et on va pouvoir. Et j'ai pu gérer cela et je pouvais recevoir les musiciens, les journalistes, des réalisateurs, des écrivains qui venaient. Bon, voilà, il y a l'avion, l'oiseau, ça s'appelle, d'ailleurs on appelait l'avion l'oiseau livre, et pour que tout ce qui est dédicace ou lecture se passe sous l'aile de cet oiseau.
Magnifique.
Meilleure façon de voyager.
Alors, vous avez également travaillé avec des grands metteurs en scène et réalisateurs hein, de votre époque, Patrice Chéreau, Georges Lautner, Simben Ousmane, avec qui vous avez eu l'occasion de collaborer.
Oui, avec Simben, ça a été formidable. Un rôle de muet. Je me rappelle le jour où le film a été présenté à Ouagadougou en avant-première, c'est-à-dire en grande première, et le ministre de la Culture à l'époque, qui était celui de l'information, en même temps de jeunesse et sport, Dona Fologo, il a dit « Bravo Simben, tu as réussi à fermer sa grande gueule.
» Dernière question Isabella, rapidement.
Oui, il faut rappeler que Aïcha justement fait un documentaire sur Sidiki, et on aimerait bien justement qu'elle nous parle de ce documentaire.
Ouais, il est en préparation.
Oui.
Et donc, en fait, c'est toujours un travail de mémoire, en fait. Et même si Sidiki n'est pas dans, il est encore vivant, comme je le dis très bien, c'est quelqu'un qui a un prochain projet, qui va certainement jouer dans Combat de Nègres et de Chiens, et il va reprendre le rôle qu'il a fait il y a 30 ans. Donc, finalement, c'est ça, c'est de débayer, de se dire, il y a des gens qui ont fait des choses avant. Mm-hmm. Et Sidiki, c'est vrai que beaucoup de gens maintenant, dans une ère un peu de star system et de conneries comme ça, et Sidiki, quand même, c'est quand même avant tout quelqu'un qui a appris son métier et qui l'a très bien fait et qui a une éthique, et je trouve que c'est intéressant déjà de parler de ça, mais en même temps de mettre aussi en lumière une carrière qui est quand même assez exceptionnelle.
Ouais. C'est ça.
Il a travaillé avec vraiment quasiment les plus grands.
Exactement.
Et donc c'est en ça. Donc là, je suis en préparation, je travaille, on va chercher bien les budgets, on va faire les choses bien. Et
il faut avoir des bonnes personnes de ressources.
Voilà, exactement.
Ouais.
Donc voilà, on est.
Alors moi, avant de se quitter, j'ai envie de vous demander d'applaudir Sidiki.
Oui.
Dans ce studio, je veux qu'on applaudisse ce grand monsieur. Voilà, merci en tout cas d'être venu chez Africa Radio. Et d'ailleurs, monsieur Dominique Guillot qui est en train de partir, que je vous présenterai peut-être tout à l'heure. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. On nous écoute aussi à Abidjan sur 91.1 et notamment également à Brazzaville sur 94.5. Merci.
C'est moi qui vous remercie et tous mes élèves que j'ai formés, à commencer par Adama Daïko, qui
a
commencé à former en 90, qui est aujourd'hui une très grande star, ou les plus jeunes comme Mike Danon ou Jep Begré.
Ou Kanemaoula aussi, non ?
Oui, absolument.
Voilà.
Sont aujourd'hui la plus. Voilà pourquoi je dis, quand on sème et qu'on voit les pousses, et puis ensuite devenir un arbre, ça me fait. Je suis heureux. 10 ans, on me dit, 10 ans en Côte d'Ivoire. Pour ce que j'avais comme carrière à l'époque, personne ne le ferait. Parce que si vous vous éloignez de 2 ans, 3 ans, votre carrière est morte en Europe.
Exact.
Mais j'ai choisi de servir mon pays, de penser que ces jeunes vont continuer. Et bien voilà, on me rappelle maintenant un grand réalisateur qui me rappelle Joseph Ramaka, et qui a fait Carmen. Là, il reprend un rôle, Combat de Nègres de Chien de Coltès. Il en fait une adaptation cinématographique. Et plus de 30 ans après, pour que je rejoue le même rôle. C'est une chance, il m'a vu à Dakar, il m'a dit, mais attends, je rêve ou quoi? Tu n'as pas beaucoup changé. Et je crois que tu peux encore jouer ce personnage. Hélas, Patrick Chéreau est parti, Coltès est parti, Philippe Léotard aussi est parti, et Piccoli aussi vient de partir. Donc, je reste peut-être... Myriam Makeba est là, mais Myriam Boyer.
Boyer, pas Makeba.
Ça qui est bien, c'est ça, la culture.
Voilà.
Quand elle vous imprègne, elle vous prend.
Voilà.
Je dis merci beaucoup de cet accueil. Et tous mes élèves aujourd'hui, et puis en même temps, je salue les Ivoiriens pour dire, attention, on s'en va aux élections, soyons capables d'aller avec beaucoup de paix dans notre cœur.
Tout simplement, merci Sidiki Bakaba.